1408. De même que tout auteur de romans à suspense et d'horreur se doit d'écrire au moins une histoire d'enterrement prématuré, la chambre aux fantômes de l'auberge hantée est un passage obligé pour lui. Voici ma version personnelle. La seule chose inhabituelle dans son cas est que je n'avais nullement l'intention de la terminer. Je l'avais écrite en tant qu'appendice à écriture, pour donner au lecteur un exemple de la manière dont évolue une histoire entre le premier jet et sa version définitive. Plus que tout, je tenais à illustrer de manière concrète les principes que je défendais dans cet essai. Mais il s'est passé quelque chose de sympa. L'histoire m'a séduit, et j'ai eu envie d'écrire la suite. Je crois que ce qui nous fait peur varie beaucoup d'une personne à l'autre. Je n'ai jamais compris pourquoi, par exemple, les boomslang péruviens fichent la frousse à certains. Mais cette histoire m'a vraiment fichu la frousse pendant que je l'écrivais. Sa première parution s'est faite sous forme de cassette audio dans une compilation intitulée « Sang et fumée », et cette version parlante m'a encore plus effrayé. M'a flanqué une pétoche de tous les diables. Mais voilà, les chambres d'hôtel sont des endroits naturellement inquiétants. Vous ne trouvez pas? Parce qu'enfin, combien de personnes ont déjà dormi dans ce lit avant vous? Combien y ont été malades? Combien y ont perdu l'esprit? Combien, peut-être, ont commencé par envisager de lire quelques versets de la Bible, la Gideon qui traîne sur toutes les tables de nuit, avant d'aller se pendre dans le placard à côté de la télé? De toute façon, allons voir ça de plus près, pourquoi pas? Voici votre clé, et il serait peut-être prudent de vérifier ce qu'on obtient en additionnant ces quatre petits chiffres innocents. C'est juste au bout du couloir. Chapitre 1er. Mike Enslin se trouvait encore dans la porte à tambour lorsqu'il aperçut Olin, le gérant de l'hôtel Dolphin, installé dans l'un des gros fauteuils rembourrés du hall d'entrée. Il sentit son cœur se serrer un peu. « J'aurais peut-être dû me faire accompagner par cet animal d'avocat, en fin de compte, » pensa-t-il. Eh bien, c'était trop tard. Et même si Olin avait décidé de dresser encore un ou deux barrages entre lui et la suite 1408, ce n'était pas une catastrophe. Il y avait des compensations. Olin traversait la salle, sa main grassouillette déjà tendue, lorsque Mike sortit de la porte à tambour. Le Dolphin était situé sur la 61e rue au coin de la 5e avenue. Un établissement petit, mais chic. Un couple en tenue de soirée passa devant Mike, au moment où, après avoir fait passer son petit bagage à sa main gauche, il serrait la main d'Olin. La femme était blonde et, bien entendu, habillée en noir, et le léger arôme floral de son parfum était à lui seul un résumé de New York. Au niveau de la mezzanine, dans le bar, un pianiste jouait « Night and Day » comme pour souligner ce fait. « Mr. Enslin ?» « Bonsoir, Mr. Olin. Un problème ?» Olin prit un air peiné. Il regarda pendant un bref instant autour de lui, dans l'élégant petit hall, comme s'il cherchait de l'aide. Au comptoir de la réception, un couple se disputait pour un problème de billets de théâtre sous l'œil patient du concierge, qui arborait un petit sourire. Un peu plus loin, un homme à l'aspect défraîchi de celui qui vient de passer de longues heures en classe affaires discutait de sa réservation avec une femme habillée d'un costume noir assez chic pour faire office de tenue de soirée. Activité habituelle à l'hôtel Dolphin. Tout le monde pouvait trouver de l'aide, excepté le pauvre Mr. Olin, qui était tombé entre les griffes de l'écrivain. « Mr. Olin ?» répéta Mike, se sentant un peu désolé pour lui. « Non, » finit par répondre Olin, « pas de problème, mais... » Mr. Enslin, est-ce que je pourrais vous parler un moment dans mon bureau ? Tiens, pensa Mike, il veut faire une dernière tentative. Et au fond, pourquoi pas ? Cela donnerait plus de consistance au chapitre sur la suite 1408, lui conférerait l'atmosphère menaçante qui convenait et dont les lecteurs de ses livres semblaient friands. Mais ce n'était pas tout. Mike Enslin n'en avait pas été sûr jusqu'ici, en dépit de tous les atermoiements. Mais il l'était à présent. Olin avait réellement peur de la suite 1408 et de ce qui pourrait y arriver à Mike ce soir. « Bien sûr, Mr. Olin. » Olin, en hôte parfait, tendit la main vers la petite valise de Mike. « Permettez ? » ?»« Oh, ça va bien. Rien que des vêtements de rechange et ma brosse à dents. »« Vous en êtes sûr ?»« Oui, » répondit Mike avec un sourire. Je porte déjà ma chemise hawaïenne fétiche, celle qui est imprégnée de repousses fantômes. Olin ne lui rendit pas son sourire. Le petit homme tout en rondeur, habillé d'une jaquette sombre et d'une cravate impeccablement nouée, poussa un soupir. « Très bien, Mr. Enslin, veuillez me suivre. » Dans le hall, le gérant lui avait fait l'effet d'hésiter, d'être déprimé, presque vaincu d'avance. Dans son bureau lambrissé de chêne, avec au mur des anciennes photos de l'hôtel, le Dolphin avait ouvert en octobre 1910. Mike aurait pu publier son histoire sans faire de recherche dans les journaux de la grande ville, mais les avait faites tout de même. Olin paraissait avoir repris de l'assurance. Il y avait un tapis persan sur le sol. Deux lampadaires diffusaient une douce lumière jaune. Sur le bureau, une lampe à abat-jour vert de forme ovale était posée près d'une cave à cigares. Et à côté de la cave à cigares, on voyait les trois derniers livres de Mike Enslin. En édition de poche, évidemment, il n'y avait pas eu d'édition en grand format. Cela ne l'empêchait pas de bien s'en sortir. Mon hôte a aussi fait quelques recherches de son côté, songea Mike. Il s'assit dans l'un des fauteuils disposés devant le bureau. Il s'attendait à voir Olin prendre place derrière le meuble, d'où il pourrait parler avec plus d'autorité, mais l'homme le surprit. Il s'installa dans l'autre fauteuil, croisa les jambes, puis se pencha, comprimant son petit ventre rond, pour atteindre la cave à cigares. « Cigare, Mr. Enslin ?»«
Non merci, je ne fume pas. »
Olin eut un coup d'œil pour la cigarette coincée derrière l'oreille droite de Mike, dont elle dépassait avec désinvolture, tout à fait comme autrefois un petit dégourdi de journaliste new-yorkais aurait garé sa prochaine sèche juste sous le bord de son fedora, son coupe-fil presse dépassant de la bande. Cette cigarette faisait tellement partie de sa tenue que, pendant un instant, Mike ne comprit pas ce que regardait Olin. Puis la mémoire lui revint. Il rit, la prit, la regarda lui-même, puis se tourna vers le gérant. « Cela fait 9 ans que je n'en ai pas fumé une, » expliqua-t-il. « Mon frère aîné est mort d'un cancer du poumon. J'ai arrêté peu après son décès. Cette cigarette derrière l'oreille, » il haussa les épaules, « c'est en partie de l'affectation, en partie de la superstition, je crois. Comme la chemise hawaïenne. » Ou comme les cigarettes que les gens mettent sur leur bureau ou leur mur dans une petite boîte en plexiglas avec écrit dessus « En cas d'urgence, brisez la vitre ». Est-ce que la 1408 est une chambre fumeur ou non fumeur, Mr. Olin ? Juste au cas où il y aurait une guerre nucléaire, elle est fumeur ? Eh bien, observa joyeusement Mike, voilà qui sera un souci de moins pendant les heures de veille. Mr. Olin soupira à nouveau, peu amusé, mais ce soupir ne donnait pas la même impression de désolation que celui qu'il avait poussé dans le hall. Cela tenait à la pièce, comprit Mike. Même cet après-midi, lorsqu'il était venu accompagné de Robertson, son avocat, Olin lui avait paru moins agité une fois dans le bureau. Sur le moment, Mike avait cru que cela tenait en partie au fait qu'il n'attirait plus le regard des personnes qui circulaient dans le hall, en partie au fait que le directeur du Dolphin avait renoncé. Mais il s'était trompé. Cela tenait bien à la pièce. Et pourquoi pas, au fond? Où pouvait-il se sentir davantage le patron qu'ici? Il y avait de charmantes gravures sur les murs, un beau tapis sur le sol, et de bons cigares, même s'ils n'étaient pas cubains, dans leur cave. Un certain nombre de directeurs avaient dû diriger l'établissement à partir de ce bureau depuis octobre 1910. À sa manière, il était tout aussi représentatif de New York que la blonde à la robe noire décolletée et au parfum floral, avec sa promesse implicite de sexe élégant aux petites heures du matin.
« Vous êtes toujours bien certain que je ne peux pas vous faire changer d'idée, n'est-ce pas ?» demanda Olin.
« Non, vous ne pourrez pas, » répondit Mike en replaçant la cigarette derrière son oreille. Il ne se gominait pas les cheveux à coups de Vitalis ou de Wildroot Cream Oil, comme le faisaient ces pittoresques gribouilleurs de papier d'antan porteurs de Fedora, mais il renouvelait quotidiennement cette cigarette, comme il changeait de sous-vêtements. On transpire derrière l'oreille. S'il examinait ce tube blanc et mortel le soir avant de le jeter dans les toilettes, intact, il y avait des traces jaunâtres de sueur sur le papier fin. Cela n'augmentait pas la tentation de l'allumer. Il avait dopé comme un malade pendant presque 20 ans, 30 sèches par jour, parfois 40, mais tout ça était du passé. Pour quelle raison avait-il autant fumé était une question plus intéressante. Olin prit la petite pile de livres de poche sur son sous-main.
J'espère sincèrement que vous vous trompez. »
Mike ouvrit une poche latérale sur son baise-en-ville et en sortit un petit magnétophone, un simple dictaphone en réalité.
« Me permettez-vous d'enregistrer notre conversation, Mr. Olin ?»
Le directeur agita la main. Mike appuya sur un bouton et la petite lumière rouge enregistrement s'alluma. Les bobines commencèrent à tourner.
Olin, pendant ce temps, parcourait les titres des livres. Comme toujours, quand il voyait ses ouvrages entre les mains d'une autre personne, Mike Enslin était en proie à un curieux mélange de sentiments. Fierté, malaise, amusement, méfiance et honte. Il n'avait aucune raison d'en avoir honte pourtant. Sa plume lui avait permis de très bien vivre ces quelques dernières années et il n'était pas obligé de partager les bénéfices avec un packager, ces charognards de l'édition comme les appelait son agent, mais peut-être y avait-il de la jalousie dans cette accusation, étant donné que le concept, à la base de ses publications, était entièrement de lui. Qu'écrire après Frankenstein, sinon la fiancée de Frankenstein? Il avait cependant fait le voyage en Iowa. Il avait étudié avec Jen Smiley. Il avait même siégé autrefois à côté de Stanley Elkin. Jadis, il avait aspiré à être publié en tant que jeune poète de Yale, chose qu'absolument personne ne soupçonnait dans le cercle de ses amis et de ses relations. Et lorsque le directeur du Dolphin entreprit de lire les titres à voix haute, il se mit à regretter de lui avoir lancé le défi de l'enregistrement. Quand plus tard il écouterait cette voix aux intonations mesurées, il s'imaginerait y découvrir du mépris. Il toucha la cigarette derrière son oreille, sans même s'en rendre compte. « 10 nuits dans 10 maisons hantées, Luolin. 10 nuits dans 10 cimetières hantées. 10 nuits dans 10 châteaux hantés. »
L'homme leva les yeux, une esquisse de sourire lui retroussant le coin des lèvres.
« Vous êtes allé en Écosse pour celui-ci ? Sans parler de la forêt viennoise, et tout ça déductible des impôts, n'est-ce pas? Les lieux hantés, après tout, sont votre fonds de commerce.
Est-ce une critique?
Aurais-je touché un point sensible?
Sensible, oui. Vulnérable, non.
Si vous espérez que je vais renoncer à passer la nuit dans votre hôtel parce que vous critiquez mes livres... Non, non, pas du tout. Simple curiosité de ma part. J'ai envoyé Marcel, l'un de nos concierges, les acheter il y a 2 jours après votre passage, et... votre requête.
C'était une exigence, pas une requête. C'est toujours le cas.
Vous avez entendu, Mr. Robertson, les lois de l'État de New York sont formelles, sans même parler du Code civil fédéral. Vous ne pouvez me refuser une chambre si je la réclame, et si cette chambre est libre. Et la 1408 est libre. Elle l'est toujours, ces temps-ci.
Mais Mr. Olin n'allait pas se laisser entraîner sur un autre sujet que les 3 derniers livres de Mike, qui avaient tous figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Pas encore. Il se contenta de les manipuler une fois de plus. La douce lumière de la lampe se reflétait sur les couvertures brillantes. Il y avait beaucoup de violet pourpre sur ces couvertures. Cette nuance était meilleure vendeuse que n'importe quelle autre pour les livres d'épouvante, avait-on appris à Mike.
« Je n'ai pas eu la possibilité d'y jeter un coup d'œil avant ce soir, » reprit Olin. « J'ai été très pris, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Le Dolphin est un petit établissement au regard des critères de New York, mais nous connaissons un taux d'occupation moyen de 90% et, en règle générale, chaque client qui franchit la porte pose un problème.
Comme moi, par exemple. » Olin eut un petit sourire.
Je dirais que vous en présentez un qui est un peu particulier, Mr. Enslin. Vous, Mr. Robertson et vos menaces.
De nouveau, Mike se hérissa, vexé. Il n'avait fait aucune menace, à moins que la présence de Robertson à elle seule en eût constitué une. Et il avait été obligé d'employer l'avocat comme il aurait employé un pied de biche pour forcer la serrure d'un coffre dont la clé aurait été inutilisable parce que rouillée.
Sauf que le coffre ne t'appartient pas, fit sa petite voix intérieure.
Mais les lois du pays ne disaient pas ça. Les lois affirmaient que la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin était à lui s'il la voulait, tant que personne d'autre ne l'avait réservée avant lui. Il devint conscient de la manière dont Olin l'observait, arborant toujours son petit sourire, comme s'il avait suivi mot à mot ou presque le dialogue intérieur de Mike.
C'était un sentiment désagréable. Il ne s'était pas attendu à ce que cette entrevue prît un tel tour. Il avait l'impression d'avoir été sur la défensive depuis qu'il avait branché le magnétophone, chose qui avait pourtant le don, en général, d'être intimidante pour son vis-à-vis.
« Je crois que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, Mr. Olin. J'en ai peur. Et j'ai eu une longue journée. Si notre contentieux au sujet de la chambre 1408 est vraiment réglé, j'aimerais pouvoir me retirer et...
J'ai lu un de vos... Comment doit-on les appeler ? Des essais ? Des contes ?
Des épongeurs de factures. Voilà comment Mike les appelait, mais il n'avait aucune intention de le dire à voix haute. Dictaphone branché. Même si c'était son dictaphone.
Une de vos histoires, disons, décida finalement le directeur. Une de chacun de vos livres. Celle de la maison Rilsby, au Kansas, dans le premier.
Ah oui, l'assassin à la hache.
Le charmant garçon qui avait massacré les 6 membres de la famille Rilsby à coups de hache n'avait jamais été retrouvé.
Exactement. Et aussi, celle de la nuit que vous avez passée sur la tombe des amants qui se sont suicidés en Alaska et que les gens de Circa prétendent voir rôder dans les parages. Et enfin, le récit de votre nuit au château de Guardsby. Tout à fait amusant, celui-ci. J'ai été surpris.
Mike avait l'oreille particulièrement fine pour saisir la moindre nuance de mépris jusque dans les commentaires les plus insipides faits sur ses œuvres. Et il ne doutait pas d'en découvrir, même quand il n'y en avait pas, parfois, peu de créatures sont aussi parano sur Terre qu'un auteur qui croit, tout au fond de lui, que ce qu'il écrit est du pipeau, comme Mike l'avait découvert. Il n'eut cependant pas l'impression de sentir le moindre mépris chez Olin.
Merci, dit-il, en bien, j'espère.
Il jeta un coup d'œil au petit magnétophone. D'habitude, le minuscule œil rouge paraissait surveiller son vis-à-vis, le pousser à dire ce qu'il ne fallait pas. Ce soir-là, il paraissait tourné vers Mike.
« Oh oui, c'était un compliment dans mon esprit !» dit Olin en tapotant le livre. « J'ai même l'intention de les terminer. Mais pour leur style, c'est votre manière d'écrire qui me séduit. J'ai été surpris de m'entendre éclater de rire quand j'ai lu vos aventures au château de Guardsby, surpris aussi par la qualité de votre écriture, par sa subtilité. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grossier. »
Mike se prépara à ce qui allait inévitablement suivre, une variation sur le thème « Qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous fait dans un endroit pareil ?» Il ne pouvait rien attendre d'autre d'Olin, hôtelier urbain chic qui recevait des blondes en robe de soirée noire, qui engageait de vieux musiciens malingres pour égrener des classiques usés comme « Night and Day » sur le piano du bar. Olin, qui, quand il n'était pas de service, devait lire Marcel Proust.
Mais ils ont aussi quelque chose d'inquiétant, ces livres. Si je n'avais pas mis le nez dedans, je crois que je n'aurais pas pris la peine de vous attendre ce soir. Dès l'instant où je vous ai vu arriver avec votre avocat et son porte-document, j'ai su que vous teniez définitivement à passer la nuit dans cette foutue chambre et que rien de ce que je pourrais dire n'arriverait à vous en dissuader. Mais vos livres...
Mike arrêta l'enregistrement. Ce petit œil rouge indiscret lui donnait des vapeurs. « Vous voulez savoir pourquoi je me complais dans ces choses douteuses, c'est ça ?»«
Oh, je suppose que c'est pour l'argent, » répondit doucement Olin. « Et en matière de choses douteuses, il y a bien pire, du moins de mon point de vue. Même s'il est intéressant que vous sautiez vous-même si rapidement à une telle conclusion. »
Mike sentit le rouge lui monter aux joues. « Non ?» Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'était attendu. Jamais auparavant il n'avait coupé un enregistrement au cours d'une conversation. Mais Olin n'était pas l'homme qu'il donnait l'impression d'être à première vue. « Je me suis fait mener par le bout du nez, » songea Mike. Il m'a pris le bout du nez entre ses doigts boudinés et parfaitement manucurés et m'a promené comme il a voulu.
« Ce qui m'a inquiété, ce qui m'a effrayé, à vrai dire, ce fut de découvrir que j'avais affaire à un homme intelligent et de talent » qui ne croyait pas un seul instant à ce qu'il écrivait.
Ce qui n'était pas tout à fait vrai, se dit Mike. Il avait écrit environ 2 douzaines d'histoires en lesquelles il avait cru. Il en avait même eu quelques-unes de publiées. Il avait écrit des pages et des pages de poésie pendant les 18 mois qui avaient suivi son arrivée à New York, alors qu'il crevait de faim comme pigiste au Village Voice. Mais
Croyait-il que le fantôme sans tête d'Eugène Rilsby se promenait au clair de lune dans sa ferme abandonnée du Kansas? Non. Il avait passé la nuit dans la ferme en question, il avait campé sur le lino crasseux et bosselé de la cuisine, et il n'avait rien vu de plus terrifiant que deux souris trottinant le long de la plinthe. Il avait patienté pendant une longue et chaude nuit d'été dans les ruines du château de Transylvanie où Vlad Tepeș aurait, paraît-il, présidé à ses réceptions. Les seuls vampires à se montrer avaient été des moustiques en nombre. Et, pendant la nuit où il avait veillé à côté de la tombe du tueur en série Jeffrey Dahmer, une silhouette blanche striée de sang et agitant un poignard s'était bien approchée de lui sur le coup de 2 heures du matin, mais les fous rires des amis de l'apparition l'avaient trahi. Sans compter que Mike Enslin n'avait nullement été impressionné. Il n'avait eu aucun mal à reconnaître un ado brandissant un poignard en plastique. Il n'avait cependant aucune intention de raconter tout ça à Olin. Il ne pouvait se permettre... Mais si. Le magnétophone, une erreur dès le départ, comprenait-il à présent, ne tournait plus. Et cet entretien était aussi discret qu'il pouvait l'être. Sans compter que, d'une certaine manière, il en était venu à admirer Olin. Et quand on admire quelqu'un, on a envie de lui dire la vérité. En effet, reconnut-il, je ne crois pas à tout ce cirque de goules, de vampires, de spectres et de bêtes à longues pattes. Je pense que c'est aussi bien qu'elles n'existent pas, vu que je ne crois pas non plus qu'existe un Dieu tout-puissant pour nous en protéger. C'est ma conviction, mais j'ai toujours gardé l'esprit ouvert. Je ne remporterai sans doute jamais le prix Pulitzer pour avoir enquêté sur le fantôme aboyeur du cimetière de Mount Hope, mais j'en aurais fait un compte-rendu honnête et circonstancié, s'il s'était montré. Olin dit quelque chose, un seul mot, mais à voix si basse que Mike ne comprit pas. « Pardon ?»« J'ai dit non !» Le gérant du Dolphin avait presque l'air de s'excuser en le regardant. Mike soupira. Olin le prenait pour un menteur. Quand on en arrivait à ce stade, il ne restait plus que deux solutions, se lancer dans la bagarre ou arrêter tout de suite les frais. « Si nous laissions cette discussion pour un autre jour, Mr. Olin, je vais simplement monter dans ma chambre et me brosser les dents. Peut-être verrai-je alors Kevin O'Malley se matérialiser dans le miroir derrière moi. » Mike commença à se lever, mais Olin tendit sa main replète aux ongles soigneusement manucurés pour l'arrêter. « Je ne vous prends pas pour un menteur, Mr. Enslin, mais le fait est que vous ne croyez pas à vos histoires. Les fantômes... apparaissent rarement à ceux qui ne croient pas en eux, et même dans ce cas, on les voit rarement. Je parie que Jane Rilsby aurait pu faire rouler sa tête dans tous les couloirs de sa maison, que vous n'auriez rien entendu. » Mike se leva, puis se pencha pour prendre sa petite valise. « Dans ce cas, je n'aurais rien à redouter dans la chambre 1408, n'est-ce pas ?»« Et pourtant, si, » répondit Olin, « vous aurez quelque chose à redouter. » « Parce qu'il n'y a pas de fantôme dans la chambre 1408, et il n'y en a jamais eu. Il s'y trouve, par contre, quelque chose. Une chose que j'ai ressentie moi-même, mais il ne s'agit pas d'une présence spirituelle. Dans une maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. » « Ne le faites pas, Mr. Enslin. C'est pour cette raison que je vous ai attendu ce soir, pour vous demander, pour vous supplier de ne pas le faire. Parmi toutes les personnes qui doivent se tenir le plus possible à l'écart de cette chambre, l'homme qui a écrit ses ouvrages jubilatoires exploitant les histoires de fantômes vient sans aucun doute en tête de liste. » Mike entendit bien ces paroles, mais sans les entendre vraiment. Et dire que j'ai coupé le magnéto, il en était malade. Il a réussi à me mettre tellement dans l'embarras que j'ai arrêté l'enregistrement, et voilà qu'il me transforme en Boris Karloff, maître de cérémonie du week-end spécial fantôme célèbre. Je le citerai, de toute façon. Et si ça ne lui plaît pas, il n'aura qu'à me faire un procès. Il eut tout d'un coup très envie de se rendre là-haut, non pas parce qu'il lui tardait d'entamer sa longue nuit de veille, mais parce qu'il voulait retranscrire les paroles d'Olin tant qu'il les avait encore présentes à l'esprit. « Je vous offre un verre, Mr. Enslin. »« Non, merci. Je préférerais... » Le gérant du Dolphin sortit de sa poche une clé retenue par un lourd porte-clés en laiton en forme de pagaie. Le métal, rayé et terne, paraissait ancien. Le numéro 1408 était gravé dessus.
« Je vous en prie, » reprit Oline, « pour me faire plaisir. Donnez-moi 10 minutes de votre temps, juste ce qu'il faut pour consommer un whisky, et je vous donne cette clé. Je serai prêt à faire à peu près n'importe quoi pour vous faire changer d'avis, mais j'aime à croire que je sais me résoudre à accepter l'inévitable. »
Vous utilisez encore de véritables clés, Odolphine ? Ça ne manque pas de cachet.
D'un certain charme désuet.
Nous avons adopté les clés magnétiques en 1979, Mr. Henslin, l'année où je suis devenu le directeur de cet hôtel. La 1408 est la seule chambre ou suite à avoir conservé une clé classique. Il était inutile de la doter d'une clé magnétique, étant donné que personne ne l'occupe jamais. Cela depuis 1978, dernière année où quelqu'un a payé pour y coucher.
« Vous vous fichez de moi !» s'exclama Mike.
Il se rassit et reprit le dictaphone qu'il remit en marche.
Le directeur du Dolphin prétend que la suite 1408 n'a pas été louée depuis plus de 20 ans.
Et il est d'autant plus inutile de poser une serrure magnétique sur la porte de cette suite qu'elle ne fonctionnerait pas.
C'est une chose dont je suis tout à fait certain.
Les montres numériques s'arrêtent dans la 1408, ou tournent à l'envers, ou donnent n'importe quelle heure, si bien qu'elles perdent toute fiabilité. Il en va de même pour les calculettes et les téléphones cellulaires. Si vous avez un bip sur vous, Mr. Henslin, je vous conseille de le couper, parce qu'une fois dans la 1408, il se mettra à sonner pour rien.
Et encore, cela ne suffira peut-être pas, car il arrive que ces appareils se remettent en route tout seuls.
La seule solution garantie consiste à enlever les piles.
Le directeur du Dolphin coupa lui-même l'enregistrement, sans même regarder ce qu'il faisait.
Mike supposa qu'il devait avoir un appareil identique pour dicter son courrier.
« En vérité, Mr. Henslin, il n'existe qu'une véritable garantie. Ne jamais mettre les pieds dans cette chambre. »
« Chose que je ne peux faire, » dit Mike en récupérant son dictaphone pour le ranger.
« Mais je crois que je vais avoir le temps de prendre ce verre, en fin de compte. »
Pendant que Lynn préparait les boissons sur le bar en chêne, sous un tableau représentant la 5e avenue au début du siècle, du 20e siècle, Mike lui demanda comment il savait, puisque la chambre n'avait plus jamais été occupée depuis 1978, que les gadgets électroniques n'y fonctionnaient pas.
« Je ne vous ai pas dit que personne n'y avait mis les pieds depuis cette date, » lui fit observer Oline.
« Une femme de chambre y passe une fois par mois pour y faire un ménage simple. » Ce qui signifie...
Mike, qui travaillait sur 10 chambres d'hôtel hantées depuis environ 4 mois, le coupa.
« Je sais ce que cela veut dire. » Un ménage simple comprenait l'ouverture des fenêtres pour changer l'air, passer l'aspirateur, mettre assez de désinfectant dans les toilettes pour que l'eau bleuisse quelques instants... Changer les serviettes. Mais pas les draps, pas dans un ménage simple. D'ailleurs, peut-être ne mettait-on ni serviettes ni draps dans cette chambre puisqu'elle n'était jamais louée. Il se demanda s'il n'aurait pas dû apporter son duvet.
Oline, qui traversait le tapis persan les verres à la main, parut avoir lu dans les pensées de l'écrivain sur son visage.
On y a mis des draps propres cet après-midi même, Mr. Henslin.
Vous pourriez peut-être abandonner le Mister et m'appeler Mike, non ?
« Je ne serai pas à l'aise, » répondit Oline en tendant un des verres à Mike.
« À la vôtre !»«
À la vôtre aussi. »
Mike leva son verre avec l'intention de le faire teinter contre celui du directeur, mais celui-ci retira le sien.
« Non, seulement à la vôtre, Mr. Henslin. J'insiste. Ce soir, nous devons boire tous les deux à votre santé. Vous allez en avoir besoin. »
Mike poussa un soupir, fit teinter son verre contre celui d'Oline et dit
« Alors, à moi. Vous feriez très bien dans un film d'épouvante, Mr. Oline. Je vous vois tout à fait dans le rôle du vieux maître d'hôtel à la mine sinistre qui essaie de mettre le jeune couple en garde contre les maléfices du château infernal. »
Oline s'assit.
« Voilà un rôle que je n'ai pas eu souvent à jouer grâce au ciel. La 1408 ne figure sur aucun des sites internet traitant des lieux où se manifeste le paranormal ou le parapsychique, comme vous voudrez.
Ça va changer après la sortie de mon livre, je vous prie de le croire, pense à Mike, en prenant une gorgée de whisky. Et il n'y a aucun voyage organisé spécialisé dans les fantômes qui passe par l'hôtel Dolphin. Alors qu'il en existe au Sherry Netherland, au Plaza ou au Park Lane. Nous restons le plus discret possible sur la suite 1408, même si son histoire a toujours été à la disposition d'un chercheur à la fois chanceux et tenace. Mike s'autorisa une esquisse de sourire. « Véronique a donc fait le lit, » reprit le directeur. « Je l'ai accompagnée. » »« Vous devriez vous sentir flatté, Mr. Henslin. C'est presque comme avoir votre lit fait par une personne de sang royal. » Véronique et sa sœur sont entrées au Dolphin comme femmes de ménage en 1971 ou 1972. Véro, comme nous l'appelons, est la plus ancienne employée du Dolphin encore en activité, puisqu'elle est entrée ici 6 ans avant moi. Depuis, elle est devenue gouvernante, responsable de tout le personnel d'entretien. Je suppose que cela doit bien faire 6 ans qu'elle n'a pas fait un lit, mais c'est elle et sa sœur qui se sont occupées de la 1408 jusqu'en 1992 à peu près. Véronique et Céleste sont jumelles. Et ce lien particulier semble, comment dire, non pas les immuniser contre la 1408, mais quelque chose comme ça, au moins pendant les quelques minutes que prend un ménage simple. Vous n'allez tout de même pas me dire que la sœur de Véronique est morte dans cette chambre. Non, pas du tout. Elle a quitté son service ici en 1988 pour des raisons de santé. Mais je n'exclus pas que la 1408 ait joué un rôle dans la détérioration de son état, tant physique que mental. Il semble que nous soyons parvenus à établir un rapport de confiance entre nous, Mr. Olin. J'espère que je ne le détruis pas si je vous dis que je trouve cette idée ridicule. Olin se mit à rire. Que d'entêtement pour quelqu'un qui étudie des choses aussi impalpables. Je le dois à mes lecteurs, répliqua Mike d'un ton neutre. J'imagine que j'aurais pu tout aussi bien laisser la 1408 telle qu'elle pendant tout ce temps. Portes fermées, rideaux tirés pour empêcher le soleil de décolorer la moquette, lumières éteintes, des housses partout, le menu du petit déjeuner posé sur le lit. Mais je ne supporte pas l'idée de l'air prenant cette odeur de renfermé, comme dans un grenier, de la poussière s'accumulant partout, épaisse et prête à s'envoler. Suis-je atteint de délire obsessionnel ou simplement pointilleux? C'est pour cette raison que vous êtes directeur d'hôtel. Sans doute. Toujours est-il que Véro et Céleste se sont occupés de l'entretien de cette pièce, en n'y faisant que de brèves incursions, jusqu'à ce que Céleste démissionne et que Véro ait une promotion. Après quoi, j'ai toujours envoyé 2 femmes de ménage à la fois, en en choisissant 2 qui s'entendaient bien, et en espérant que ce lien leur permettrait de mieux résister aux esprits. En espérant qu'il les aiderait, en tout cas, oui. Et moquez-vous autant que vous voulez des esprits de la 1408, Mr. Henslin, mais vous sentirez leur présence sur le champ, de ça. Je suis certain. Quoi qu'il y ait dans cette pièce, ce n'est pas la timidité qui le caractérise. Souvent, j'y suis allé avec les femmes de ménage, à chaque fois que je l'ai pu, à vrai dire, pour superviser le travail. Il se tut comme s'il avait du mal à continuer. Et pour les sortir de là aussi, je suppose, si quelque chose de vraiment affreux commençait à se produire. Mais il n'est jamais rien arrivé. Plusieurs d'entre elles ont eu des crises de larmes, une autre a été prise de fou rire. J'ignore pour quelle raison une personne qui rit sans pouvoir se contrôler est plus inquiétante qu'une autre qui pleure, mais c'est pourtant le cas. Et enfin, un certain nombre se sont évanouis. Rien de bien terrible, cependant. J'ai eu le temps, depuis toutes ces années, de me livrer à quelques petites expériences primitives, comme les bips, les téléphones cellulaires, par exemple. Mais rien d'horrible ne s'est produit. Grâce à Dieu ! Il se tut, puis ajouta d'un ton de voix plat et étrange. L'une d'elles, pourtant, a perdu la vue. Quoi ? Elle est devenue aveugle. Romy Van Gelder. Elle époustait la télé et, soudain, elle s'est mise à hurler. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Elle a laissé tomber son chiffon pour porter les mains à ses yeux, criant qu'elle ne voyait plus rien, sinon des couleurs absolument affreuses. Ses visions ont disparu pratiquement dès qu'elle eut franchi la porte et, le temps d'aller jusqu'à l'ascenseur au bout du couloir,
Elle commençait à retrouver la vue.
Vous me racontez tout ça pour me faire peur, Mr. Olin, n'est-ce pas? Afin de me décourager?
Certainement pas. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de cette suite qui commence avec le suicide de son premier occupant.
Mike, en effet, la connaissait. Kevin O'Malley, représentant en machine à coudre, avait mis fin à ses jours le 13 octobre 1910, laissant derrière lui une femme et 7 enfants.
5 hommes et une femme ont sauté de cette seule fenêtre, Mr. Henslin. 3 femmes et un homme ont avalé trop de médicaments dans cette chambre. On en a retrouvé 2 au lit, 2 dans la salle de bain, 1 dans la baignoire et l'autre assis sur les toilettes. Un homme s'est pendu dans le placard en 1970.
Henry Storkin, dit Mike. C'était probablement un accident, asphyxie érotique.
Si vous voulez. N'oubliez pas Randolph Hyde, qui lui s'est entaillé les poignets, puis les parties génitales pour faire bonne mesure, alors qu'il saignait déjà à mort. Ce n'était sûrement pas de l'asphyxie érotique. Ce que je veux dire, Mr. Henslin, c'est que si vous ne pouvez être ébranlé dans votre intention devant 12 suicides en 68 ans, je doute que les émois et les vapeurs de quelques femmes de chambre vous arrêtent.
Les émois et les vapeurs, pensa Mike, se demandant s'il ne pourrait pas placer ça dans son livre.
Rares sont celles qui ont fait le ménage de la 1408 à vouloir y retourner plus d'une ou 2 fois, reprit Olin en finissant son verre.
Mis à part les jumelles françaises.
Le directeur acquiesça. Véronique et Céleste, exact.
Mike ne pensait pas grand-chose des aventures des femmes de ménage, ni de leur... Comment avait-il dit déjà? De leurs émois et de leurs vapeurs. Il se sentait légèrement agacé par l'énumération de suicides d'Olin. Comme si Mike, par bêtise, n'aurait pas pris en considération non pas le fait, mais l'importance de celui-ci. À ceci près qu'à son avis, cela n'avait aucune importance.
Abraham Lincoln et John Kennedy avaient eu chacun un vice-président du nom de Johnson.
Lincoln et Kennedy étaient l'un et l'autre des noms de 7 lettres, et les 2 présidents avaient été élus au cours des années 60. Mais que prouvaient ces coïncidences?
Absolument rien.
Les suicides vont constituer un chapitre essentiel de mon livre, mais le magnétophone ne tournant plus. Je puis vous dire qu'il ne relève pas d'autre chose que de ce qu'un statisticien, un homme qui fait partie de mes personnes ressources, appelle un effet de groupage.
Charles Dickens en parlait comme de l'effet pomme de terre.
Je vous demande pardon.
Lorsque Jacob Marley s'adresse pour la première fois à Scrooge, Scrooge lui répond qu'il pourrait tout aussi bien être une tache de moutarde ou une pomme de terre mal cuite.
Est-ce que c'est supposé être drôle? Demanda Mike d'un ton légèrement froid.
Rien dans tout cela ne me paraît drôle, Mr. Henslin. Rien du tout. Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Céleste, la sœur de Véro, est morte d'une crise cardiaque. À ce moment-là, elle souffrait des premiers stades de la maladie d'Alzheimer, dont elle avait été atteinte très tôt dans sa vie.
Cependant, sa sœur se porte parfaitement bien, si j'en crois ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est même une vraie réussite à l'américaine, apparemment. Comme vous-même d'ailleurs, Mr. Olin, à vous voir. Combien de fois êtes-vous entré dans la chambre 1408? 100 fois? 200?
Oui, mais pendant de très courtes périodes de temps, dit Olin. C'est peut-être un peu comme entrer dans une pièce remplie de gaz nocifs. Si l'on retient sa respiration, on peut en ressortir sans problème.
Je vois que cette comparaison ne vous plaît pas. Vous la trouvez sans aucun doute exagérée, peut-être même ridicule.
Je la crois bonne, cependant.
Il joignit les doigts sous le menton.
Il est aussi possible que certaines personnes réagissent plus rapidement et avec plus de violence à la chose, quelle qu'elle soit, qui vit dans cette chambre. Un peu comme certains plongeurs sont plus facilement sujets que d'autres à l'ivresse des profondeurs. Depuis près d'un siècle que le Dolphin est ouvert, le personnel de l'hôtel est devenu de plus en plus conscient que la 1408 est un lieu empoisonné. Il fait partie de l'histoire de cette maison, Mr. Henslin. Personne n'en parle, comme personne ne parle du fait qu'ici, comme dans la plupart des hôtels, le 14e étage est en réalité le 13e. mais chacun le sait. Si on pouvait disposer de tous les faits et événements relatifs à cette chambre, il nous raconterait une histoire stupéfiante, une histoire que même vos lecteurs les plus enthousiastes finiraient par ne pas trouver très drôle. On peut supposer que tous les hôtels de New York ont connu des cas de suicide, mais je suis prêt à parier tout ce que vous voudrez que ce n'est qu'au Dolphin qu'on en compte 12 pour une seule et même chambre. Et sans parler de Céleste Romando. Que penser des morts naturelles intervenues dans la 1408 ? Des morts soi-disant naturelles. On en a compté combien ? Dit Mike, qui ignorait qu'il y en avait eu. 30 ! Répondit Olin. Au moins 30 ! C'est le chiffre dont je suis sûr. Vous mentez ! Les mots étaient sortis de ses lèvres avant qu'il ait eu le temps de les retenir. Non, Mr. Henslin, je vous assure que non. Pensez-vous sérieusement que nous n'attribuons jamais cette chambre par superstition, comme si nous étions de vieilles femmes simplettes ou pour respecter une ridicule tradition new-yorkaise, une tradition qui voudrait que tous les anciens hôtels de la ville soient hantés par un esprit malin dont on entendrait tinter les invisibles chaînes dans la suite de l'épouvante? Mike Henslin se rendit compte que c'était une idée non exprimée mais néanmoins présente qui fécondait son nouveau projet littéraire. 10 nuits dans des hôtels hantés. Entendre Lynn la traiter par le mépris, avec l'irritation d'un scientifique n'ayant que sarcasme pour un soi-disant sorcier chaman indigène, ne fit rien pour apaiser son dépit. Certes, nous avons nos superstitions et nos traditions dans l'industrie de l'hôtellerie, Mr. Henslin, mais nous ne les laissons pas interférer avec les affaires. Quand j'ai commencé dans le métier, on m'a rappelé ce vieux proverbe du Midwest. « Il n'y a pas de chambre à courant d'air quand se tient la foire aux bestiaux. » Toutes les chambres sont louées. La seule exception que j'ai jamais faite à cette règle et la seule discussion de ce genre que j'ai jamais eue concerne la suite 1408 de l'hôtel Dolphin, suite du 13e étage, dont les chiffres du numéro, additionnés, font 13. Olin regarda l'écrivain sans siller. C'est une suite, dans laquelle il y a eu non seulement des suicides, mais des crises cardiaques, des hémorragies cérébrales et des crises d'épilepsie. Un homme, en 1973, a donné l'impression de s'être noyé dans un bol de soupe. Je ne doute pas que vous trouviez cela totalement ridicule, mais c'est le responsable de la sécurité de l'hôtel à l'époque des faits qui m'en a parlé. Il avait vu le certificat de décès. Le pouvoir de ce qui est dans la chambre semble diminuer autour de midi, heure à laquelle on procède donc à l'entretien de la pièce. Et cependant, plusieurs des femmes de ménage qui sont passées par la 1408 souffrent de troubles cardiaques, d'emphysème ou de diabète. Il y a 3 ans, nous avons eu un problème avec le chauffage à l'étage. Mr. Neal, l'ingénieur responsable de l'entretien du moment, a dû passer dans les chambres pour vérifier les radiateurs, dont la 1408. Il n'en parut pas affecté sur le coup, ni à l'intérieur, ni une fois dehors. Mais il est mort d'une hémorragie cérébrale massive l'après-midi même. Coïncidence, dit Mike. Il ne pouvait cependant nier que la démonstration de Lynn paraissait convaincante. Chef dans un camp scout, le directeur aurait terrifié tous les gamins avec ses histoires de fantômes autour du feu de camp, et 90% d'entre eux auraient demandé leur rapatriement à la maison le lendemain. Coïncidence, répéta doucement Olin, sans vrai mépris dans le ton. Il tendit la clé à l'ancienne sur son porte-clé à l'ancienne. Dans quel état est votre cœur, Mr. Henslin? Sans parler de votre tension artérielle ni de votre condition sur le plan psychologique. L'écrivain se rendit compte qu'il lui fallait faire un effort pour lever la main. Mais une fois le geste amorcé, tout alla bien. Ses doigts ne tremblaient absolument pas, pour autant qu'il pouvait en juger. « Tout va très bien, » dit-il en saisissant la petite rame usée en laiton. « Sans compter que je porte ma chemise hawaïenne porte-bonheur. » Olin tint à accompagner Mike jusqu'au 14e étage et l'écrivain ne refusa pas. Il était curieux de voir si, une fois hors de son bureau et traversant le hall pour se rendre jusqu'aux ascenseurs, l'homme allait réendosser sa personnalité couleur de muraille. Et, en effet,
Il redevint ce pauvre Mr. Olin, l'obséquieux domestique tombé entre les griffes de l'écrivain. Un homme en smoking, le directeur du restaurant ou le maître d'hôtel, supposa Mike, les intercepta pour présenter quelques papiers à Olin, murmurant une ou deux phrases en français. Olin lui répondit sur le même ton, opinant en même temps, et griffonna rapidement sa signature sur les feuilles. Le pianiste du bar avait attaqué « Autumn in New York ». D'où ils étaient, la musique prenait un écho lointain et nostalgique, comme dans un rêve. L'homme en smoking dit « Merci bien » et partit de son côté, Mike et Olin du leur. Olin demanda une fois de plus à Mike s'il pouvait porter sa valise et une fois de plus Mike refusa. Dans l'ascenseur, la triple et impeccable rangée de boutons attira irrésistiblement l'œil de l'écrivain. Tout était à sa place. Rien ne manquait, apparemment. Et cependant, si l'on y regardait de plus près, une absence sautait aux yeux. Au bouton marqué 12, succédait celui marqué 14. Comme si on pouvait réduire ce chiffre au néant en ne le mettant pas sur le panneau, se dit Mike. Folie. Mais Olin avait raison. Cela se faisait un peu partout dans le monde. Pendant que la cabine montait, Mike posa une question. « Il y a quelque chose qui m'étonne. Pourquoi ne pas créer un résident fictif pour la suite 1408 si elle vous fait aussi peur que vous le dites ? Et tant qu'à faire, Mr. Olin, pourquoi ne pas le déclarer comme votre propre résidence à l'hôtel ?
Je pense que j'ai dû craindre d'être accusé d'escroquerie, sinon par les gens chargés de faire respecter les droits civiques. » Le personnel hôtelier est tout aussi sourcilleux quant au respect de ses droits que vos lecteurs sont sensibles à des bruits de chaînes dans la nuit. Du moins, par les propriétaires de l'hôtel, s'ils en avaient vent. Si je n'ai pas pu vous convaincre de ne pas passer la nuit dans cette chambre, je doute que j'aurai davantage de succès auprès du conseil d'administration de la Stanley Corporation si je leur disais que je refuse de mettre sur le marché une chambre, par ailleurs en parfait état, parce que je crains qu'un fantôme ne pousse un représentant de commerce de passage à sauter par la fenêtre pour aller s'écrabouiller sur la 61e rue.
De l'avis de Mike, c'était la chose la plus inquiétante que lui avait dit Olin jusqu'ici. Parce qu'il n'essaie plus de me convaincre. Quel que soit le talent dont il a fait preuve dans son bureau, peut-être des vibrations favorables émanant du tapis persan, il le perd quand il en sort. Il ne perd pas ses compétences. Je l'ai bien vu quand il a signé les documents du maître d'hôtel. Mais sa force de conviction, il ne l'a plus une fois dehors. En revanche, il y croit. Dur comme fer. Au-dessus de la porte, le 12 éclairé s'éteignit et le 14 s'alluma. L'ascenseur s'arrêta. La porte coulissa, laissant apparaître un corridor d'hôtel parfaitement banal avec sa moquette rouge et or, en rien persane, et ses appliques s'inspirant des lampes à gaz du 19e siècle.
« Nous y voici, » dit Olin. « C'est votre étage. Vous m'excuserez de vous abandonner ici. La 1408 est à votre gauche, au bout du corridor. Sauf nécessité absolue, je ne m'en approche pas davantage. »
Mike Enslin sortit de l'ascenseur sur des jambes qui lui parurent plus lourdes qu'elles ne l'auraient dû. Il se tourna vers le petit homme replet en costume noir et cravate bordeaux soigneusement nouée. Olin se tenait à présent les mains derrière le dos et son visage avait la pâleur de la crème. Des gouttes de transpiration perlaient à son haut front sans rides.
« Vous avez bien entendu le téléphone dans la chambre, » reprit Olin. « Vous pouvez toujours essayer d'appeler si vous avez des ennuis, mais il risque de ne pas fonctionner. » Pas si la chambre ne le veut pas.
Mike pensa un instant à lui faire une réponse désinvolte, du genre « autant d'économiser sur les frais ». Mais sa langue lui paraissait tout d'un coup aussi pesante que ses jambes. Impossible de la décoller du fond de la bouche. Une des mains du directeur quitta son dos et se tendit en tremblant vers l'écrivain.
« Mr. Enslin, Mike, ne faites pas ça. Pour l'amour du ciel. »
Il ne put achever. La porte de l'ascenseur s'était refermée sur lui. Mike resta immobile sur place pendant quelques instants, dans le parfait silence de cet étage d'un hôtel new-yorkais dont personne, parmi le personnel, n'aurait reconnu qu'il était le 13e.
Il fut pris de l'envie d'appuyer sur le bouton d'appel. S'il le faisait, il donnerait la victoire à Olin. Et il y aurait un grand trou béant à la place du 10e et meilleur chapitre de son prochain livre. Il pouvait s'arranger pour que ni les lecteurs, ni son éditeur, ni son agent, ni même Robertson, son avocat, ne s'en rendent compte. Mais lui le saurait. Si bien qu'au lieu d'appuyer sur le bouton d'appel, sa main alla toucher la cigarette derrière son oreille, geste qui ne datait pas d'hier et qu'il faisait machinalement, et effleura le col de sa chemise porte-bonheur. Puis il s'avança vers la 1408, balançant son baiser en ville.